Mesdames et messieurs les députés.
L'Union européenne est d'abord un espace où les peuples ont décidé de vivre en paix.
Autour de la table, les dirigeants des 27 réunis aujourd'hui en sommet. Plusieurs dossiers sont sur la table au moment où je vous parle.
Nous avons collectivement à nous donner les moyens de faire de notre Europe une puissance d'équilibre.
Tout ce qu'il a dit, il l'avait déjà dit par le passé. Il n'y a rien de fondamentalement, je dirais, nouveau.
Et ma jeunesse fut celle de l'évidence européenne.
Cette prison qui est devenue l'Union européenne.
Et je compte sur le travail étroit, harmonieux, avec le Parlement européen.
J'y parle, moins il en dit. J'y parle, moins il en dit. J'y parle, moins il en dit.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission spéciale européenne organisée sur Radio Divergence avec le mouvement européen Aero et la Maison de l'Europe de Montpellier Europe Direct. Ces émissions à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous allons parler énergie renouvelable avec Jacques Percebois Toujours comme d'habitude, nous allons faire un petit tour d'horizon de l'actualité européenne de ces dernières semaines avec Clément Nicolas. Bonjour Clément, une actualité une fois de plus très riche sur le continent.
Oui, bonjour Xavier, bonjour à tous. L'Ukraine reste donc encore cette semaine, encore ce mois-ci, le point chaud. Encore un mois et demi, ou plutôt déjà un mois et demi, que la situation est tendue, la guerre, avec chaque semaine une forme de nouvelle frontière de l'horreur que l'on traverse, une pression qui fait bouger les lignes en Europe. Nous verrons quels sont les sujets clés et nous verrons si l'UE avance. L'UE avance également sur sa politique numérique et elle compte bien s'affirmer face aux géants du secteur. Google, Apple, Facebook et Amazon ne doivent plus faire régner leur loi du plus fort. Nous verrons comment Bruxelles compte renverser ce rapport de force. Et enfin, je vous parlais le mois dernier des élections à venir en Hongrie. Or, c'est sans surprise que l'ultra-conservateur Viktor Orban a été reconduit pour un quatrième mandat. Mais ces atteintes répétées à l'état de droit ces dernières semaines devraient enfin être sanctionnées par la Commission. Effet d'annonce ou réelle révolution, c'est ce que nous verrons à la fin de cette édition.
Alors on commence bien évidemment par l'Ukraine où la situation s'enlise. Les Ukrainiens continuent de voir leur pays se faire défigurer.
Combien de trains de sanctions faudra-t-il pour que Vladimir Poutine arrête de bombarder des gares, des hôpitaux, des immeubles? L'UE a approuvé son cinquième paquet de sanctions la semaine dernière et discute déjà du prochain, avec cette fois-ci plus aucun tabou sur la question des énergies. Fini le charbon russe en Europe. Le sort du pétrole comme celui du gaz sont eux encore en suspens à cette heure, mais de plus en plus de pays veulent montrer que même si c'est douloureux, il n'y a pas d'autre solution. C'est le message en tout cas que font passer les pays baltes en annonçant mettre fin à leurs importations énergétiques depuis leurs grands voisins de l'Est, et ce alors que ces pays étaient pourtant parmi les plus dépendants du continent. Le message est politique et il a été parfaitement synthétisé par Mario Draghi, le président du Conseil italien. Préfère-t-on avoir de l'air conditionné ou la paix? Depuis le début de la guerre, le 24 février dernier, les Européens ont ainsi envoyé plus de 20 milliards de dollars à la Russie pour payer son énergie. Or, tout le monde sait à quoi sert cet argent.
Alors, en attendant les actes, il reste tout de même le symbole.
Exactement. Après Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, c'est celle de la Commission, Ursula von der Leyen, qui s'est rendue à Kiev pour rencontrer directement Volodymyr Zelensky. Elle lui a remis symboliquement un formulaire de demande d'adhésion à l'UE, montrant à l'Ukraine que répéter que le pays fait partie de la famille européenne n'est pas qu'une vaine promesse. L'Allemande s'est également rendue à Boutcha, ville désormais connue dans le monde entier pour les atrocités qui s'y sont déroulées. Sur une photo, on voit la présidente de la Commission, les pieds dans la boue, sous la pluie, faisant face à des dizaines de sacs noirs que l'on imagine contenir des corps. Son expression est grave, les mains jointes devant son gilet pare-balles. Le choc est terrible, mais tristement nécessaire si les 27 ont effectivement besoin de voir les drames se multiplier pour réagir.
Deux textes importants sur le numérique qui ont bien avancé durant cette présidence avec le DSA et le DMA. L'Union européenne veut mettre fin au Far West digital.
Et oui, et pour ce faire, les Européens donc comptent sur deux nouveaux shérifs que tu évoquais, Xavier, le Digital Markets Act, le DMA, et le Digital Services Act, le DSA. Ces jumeaux doivent agir en parallèle sur deux points centraux pour réguler les nouvelles technologies. D'une part, le DMA se chargera d'établir des règles pour arrêter les fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui abusent souvent de leur position dominante pour réduire à néant leurs concurrents. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, justifie non sans malice le commissaire français au marché intérieur Thierry Breton. Le but du DSA est, lui, de faire que, je cite, « ce qui est interdit hors ligne doit être interdit en ligne », rabâche ce même commissaire, qui a décidément le sens de la formule.
Alors, mais concrètement, à quel changement peut-on s'attendre ?
Alors, à l'échelle individuelle, on devrait voir assez rapidement des évolutions inimaginables jusqu'à présent. Par exemple, d'ici 2 ans, on devrait être capable d'envoyer un message avec Skype à quelqu'un qui pourra y répondre par Messenger ou iMessage, c'est-à-dire avoir des communications interopérables entre les principales messageries instantanées. Il deviendrait également interdit de segmenter des applications suivant le système d'exploitation. Concrètement, on doit pouvoir utiliser Siri sur Android et Google Assistant sur iPhone. Ces deux textes devraient également apporter plus de protection pour les consommateurs, avec une meilleure prévention autour des publicités ciblées, plus de modération des contenus pour éviter la désinformation ou la propagation de la haine, ou encore définitivement interdire l'automise en avant de certains services. Au niveau du secteur, des conséquences devraient normalement être encore plus importantes et plus concrètes, car ne pas appliquer ces nouvelles règles, ça sera s'exposer à des amendes pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliards d'euros, et les entreprises multirécidivistes pourront même être interdites en Europe, de quoi dissuader les géants du numérique d'essayer de ne pas respecter les nouvelles règles européennes.
Et on termine par la Hongrie, où Viktor Orban a conservé sa majorité des 2/3 lors des élections il y a 15 jours. Un nouveau sacre pour le dirigeant hongrois, qui est au pouvoir depuis 2010, mais à qui la Commission européenne a préparé un beau cadeau d'investiture, une nouvelle procédure pour non-respect de l'état de droit.
Oui, en fait, le dossier était prêt depuis la fin février, mais Bruxelles l'a mis de côté afin de ne pas être accusé d'ingérence dans la campagne électorale en Hongrie. Il n'aura fallu que 2 jours après les résultats pour qu'Ursula von der Leyen annonce face aux eurodéputés l'activation du mécanisme de conditionnalité des fonds européens au respect de l'état de droit. Ce dispositif avait été obtenu par les pays du nord de l'Europe lors des négociations du plan de relance Next Generation EU afin d'éviter que l'argent communautaire ne disparaisse dans des dictatures en puissance. À l'époque, la Hongrie et la Pologne avaient accepté, pensant que cela resterait une jolie formule dans le communiqué final sans que pour autant on y voit des effets concrets. Que nenni, répond Bruxelles, qui compte bien attaquer ces pays au porte-monnaie.
Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
En fait, forcément, c'est un dispositif juridique qui ne débutera d'ailleurs réellement que dans plusieurs mois. D'ici là, au moins 17 des pays européens devront le valider et la Hongrie pourra se défendre face à la justice européenne. Ce nouveau mécanisme est donc d'autant plus simple à utiliser que surtout l'ancien en fait nécessitait l'unanimité, ce qui le rendait quasiment inapplicable. D'ici plusieurs mois donc, si la justice va dans le sens de la Commission, la Hongrie pourrait être privée des 40 milliards d'euros qu'elle reçoit de l'UE. Pour Next Generation EU, ça a été beaucoup plus simple puisque la Commission n'a tout simplement pas validé de plan de relance hongrois. Sur les 800 milliards de l'emprunt européen, 0 euros sont arrivés dans les caisses de Budapest.
Et qu'en est-il pour la Pologne ?
Pour le moment, pas grand-chose, car si le pays continue à avoir des positions tendues avec les valeurs de l'UE et bloque même, par exemple, ces dernières semaines, l'adoption d'un impôt minimal dans tous les pays européens, justement, en demandant qu'on le laisse tranquille sur l'état de droit, ces dernières semaines, on assiste à un réchauffement des relations entre Varsovie et Bruxelles. Déjà parce que la Pologne est en première ligne dans la crise ukrainienne, elle a accueilli à elle seule près de 2 millions de réfugiés, mais aussi parce que sa diplomatie ferme consolide la réponse européenne face à la Russie, mais aussi parce que la Hongrie finalement s'est isolée toute seule, en continuant d'afficher à demi-mot ses doutes sur la responsabilité ukrainienne, par exemple en s'en prenant personnellement au président Zelensky, une attitude qui n'a pas du tout plu à ses alliés traditionnels du groupe de Visegrad, dont la Pologne est l'autre pôle important. En tout cas, que ce soit l'Ukraine, avec le numérique ou dans ses propres pays membres, l'UE semble désormais déterminée à faire respecter ses valeurs, la liberté, la démocratie, la justice. Un combat, que vous pourrez suivre d'ailleurs au jour le jour sur le compte Instagram de la Maison de l'Europe de Montpellier.
Merci Clément. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'énergie renouvelable en Europe, puisque c'est passé un petit peu sous les radars de l'information, mais c'est important puisque l'Union européenne a atteint une part d'énergie renouvelable dans sa consommation finale d'énergie de 22% en 2020. Elle a donc dépassé l'objectif de 20% qu'elle s'était fixé en 2009. Pour en parler, pour étudier un petit peu les différences entre les pays, nous avons avec nous aujourd'hui Jacques Percebois, professeur émérite de l'Université de Montpellier et directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie. Jacques Percebois, bonjour.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
Alors, avant toute chose, est-ce qu'on peut rapidement expliquer ce qu'est qu'une énergie renouvelable ?
Alors, on peut classer les énergies avec deux critères. Le premier, c'est est-ce qu'elles sont renouvelables ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elles épuisent la ressource ou pas. Ça, c'est le premier critère. Par exemple, le pétrole, quand on l'utilise, il s'épuise. Le soleil ou le vent ou l'hydraulique, ça ne s'épuise pas. Le deuxième critère, c'est est-ce que ce sont des énergies carbonées ou décarbonées, c'est-à-dire qui émettent ou non du CO2. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir des énergies à la fois décarbonées pour éviter évidemment le réchauffement climatique et pour certains en même temps renouvelables. Pour d'autres, il suffit qu'elles soient décarbonées et elles font partie de la taxonomie européenne, ce qui est le cas par exemple du nucléaire qui est décarboné.
Alors, donc je le disais, en 2009, l'Union européenne s'était fixé un objectif d'énergie renouvelable. Chaque pays avait un chiffre à atteindre, on va dire, un objectif à atteindre. Cet objectif est différent selon les pays. Qui décide ? C'est la Commission européenne qui dit, toi, tel pays, tu as tel objectif. Comment ça se passe ?
Non, en fait, ce sont les pays qui prennent des engagements. Aujourd'hui, les ambitions de l'Union européenne sont des ambitions collectives. C'est-à-dire que maintenant, l'Union européenne dit, je veux atteindre telle quantité de renouvelables à telle échéance. Et on décline au niveau national en demandant à chacun de faire des efforts pour aboutir à l'ensemble. Parce qu'il y a un grand principe dans l'Union européenne, au terme des traités, et ça a été rappelé par tous les traités, c'est vrai pour le premier traité, le traité de Rome, ça a été rappelé dans le traité de Lisbonne par exemple, le grand principe c'est que la politique énergétique est de la compétence nationale. Chaque pays est maître chez lui, il peut prendre des engagements, mais ça s'explique par le fait que les contraintes ne sont pas les mêmes. La disponibilité en ressources n'est pas la même, les choix ne sont pas les mêmes. On le voit par exemple, il y a des pays qui ont beaucoup d'hydraulique, prenons la Suède, la France est relativement bien dotée, il y a des pays qui ont fait le choix du nucléaire, exemple la France, des pays qui le refusent absolument. Et qui veulent en sortir, exemple l'Allemagne. Donc chacun est maître chez lui dans ce domaine.
Mais le résultat, c'est qu'ils doivent atteindre leur objectif.
Oui, alors c'est-à-dire qu'il faut, dans la mesure du possible, respecter au moins les engagements qui sont pris. C'est-à-dire que ce n'est pas la Commission qui dit à chaque pays, vous devez avoir telle proportion. C'est chaque pays qui détermine, je dirais, son mix électrique ou énergétique à l'horizon de telle échéance. Et ensuite, il s'efforce de le respecter. Alors, il y en a qui le respectent tout à fait, d'autres qui sont en avance, d'autres qui sont plutôt en retard. Tout dépend évidemment du critère qui est retenu.
Alors justement, il y a une grande différence entre pays. Parce que si on prend le cas de la Suède, qui s'était fixé l'objectif le plus élevé, hein, à 49%, la Suède a dépassé cet objectif. La France, elle, qui s'était fixé un objectif de réduction de 23%, n'y est pas arrivée. Comment on peut expliquer qu'il y ait des différences entre pays à ce niveau-là ?
Ben, c'est en fonction de la dotation, je dirais, en ressources. La Suède est un pays qui, je dirais, a la chance d'avoir énormément d'hydraulique. Donc une grande partie de ce qu'on appelle les énergies renouvelables en Suède, en fait, c'est de l'hydraulique. À cela s'ajoute bien sûr du soleil, du solaire et de l'éolien. Et, par exemple, la Suède maintient également un programme nucléaire pour l'instant. Donc, si vous voulez, c'est un pays qui a, je dirais, une énergie très largement décarbonée, puisqu'il y a à la fois des renouvelables et du nucléaire. La France, elle, compte sur le nucléaire, mais à côté, a pris des engagements sur les renouvelables. Simplement, aujourd'hui, on est en retard par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. C'est surtout vrai au niveau de l'éolien, c'est la raison pour laquelle certains veulent relancer un grand plan, je dirais, d'éolien. Alors ça s'explique par le fait que dans le domaine des nouveaux projets, par exemple, les procédures administratives sont très longues, le fait qu'il y a beaucoup d'opposition et donc il y a des recours en justice, je crois que ça allonge terriblement les délais, et ça renchérit évidemment le coût d'accès, parce que qui dit recours en justice dit évidemment intérêt intercalaire, ce qui renchérit l'investissement.
Ce qui expliquerait donc, selon vous, ce faible résultat.
Oui, ça tient en partie à ça. Alors, c'est surtout vrai pour l'éolien. Pour le solaire, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a les grands programmes solaires, mais l'acceptabilité est meilleure. Au niveau du solaire décentralisé, il n'y a pas de problème. Par contre, pour l'éolien offshore, on avait pris des engagements. Pour l'instant, on est très en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Alors, certains veulent relancer très fortement le programme éolien en mer et sur terre. D'autres, à l'inverse, parmi les candidats qui restent, pour le deuxième tour, certains veulent arrêter les nouveaux programmes éoliens, par exemple.
On peut parler, franchement, on peut donner des noms. Hein. Qui veut arrêter
Marine Le Pen a déjà annoncé qu'elle voulait suspendre tous les projets d'éoliennes en France. Hein.
D'accord. Et donc, du coup, si on suspend ce genre de choses, on aura encore plus de mal pour atteindre l'objectif ?
L'objectif de décarbonation, Marine Le Pen répond, c'est ce que certains disent, grâce à la relance rapide du nucléaire, on aura de l'énergie décarbonée. Parce que le nucléaire, il est peut-être pas renouvelable au sens habituel du terme, mais il est décarboné.
La part des énergies renouvelables, qui compte notamment la géothermie, la biomasse, l'hydraulique, a plus que doublé par rapport à 2009. D'après le rapport Eurostat, on arrive à 9%. Et c'est l'énergie solaire qui apparemment a eu le plus de suffrages. On a beaucoup utilisé l'énergie solaire en Europe.
Oui, parce que l'acceptabilité est très bonne. D'abord parce que l'énergie solaire, on peut avoir des parcs, mais on peut aussi avoir, de l'énergie solaire décentralisée. Chacun sur son habitat peut mettre des panneaux solaires. À cela s'ajoute le fait que dans beaucoup de pays, c'est le cas en France, les aides qui ont été attribuées au solaire sont relativement conséquentes et donc c'est relativement rentable de mettre des panneaux solaires. On a des prix d'achat garantis ou des aides sous formes diverses. Et partout dans le monde, le solaire se développe assez bien. Et l'acceptabilité sociale est meilleure parce qu'il n'y a pas d'effet, sur l'environnement a priori. L'éolien, c'est un peu plus compliqué dans certains pays, notamment, pour l'éolien offshore, parce que vous avez des oppositions à la fois des pêcheurs, de ceux qui considèrent que le paysage est détérioré. Enfin, vous avez des tas d'arguments qui sont évoqués.
Mais vous, en tant que spécialiste, vous préférez les éoliennes offshore ou bien les éoliennes sur Terre ?
Les éoliennes offshore ont un avantage, c'est qu'elles sont plus performantes, parce que d'abord elles sont plus grosses, et surtout le facteur de charge, ce qu'on appelle le facteur de charge, est meilleur, c'est-à-dire qu'il y a plus de vent en mer, pour faire simple, que surtout assez loin, que de vent sur terre. Donc, mais il y a des inconvénients, parce qu'ensuite il faut raccorder l'éolienne au réseau, et donc les coûts de raccordement sont un peu plus élevés. Mais il y a des endroits où l'éolien s'est très fortement développé. Évidemment, le pays où l'éolien est le plus développé dans le monde, ça ne vous surprendra pas, c'est la Chine.
Oui. C'est une énergie intermittente, pourtant. Donc, est-ce qu'on peut vraiment compter là-dessus ?
Alors voilà, c'est une énergie intermittente. Alors, c'est d'ailleurs un des gros reproches que, par exemple, les anti-éoliennes ou anti-solaires font. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, c'était le cas par exemple fin 2021, quand les prix de l'électricité se sont envolés sur l'ensemble de l'Europe. On a eu 3 semaines avec un grand froid, et qui dit grand froid dit anticyclone des Açores, et donc pas de vent. Et donc on a beaucoup manqué d'éoliennes, notamment en Allemagne, et ça a beaucoup manqué au réseau européen. Alors l'intermittence, ça veut dire en effet que le facteur de charge fait qu'on utilise la centrale quand il y a du vent, par exemple, mais elle ne correspond pas nécessairement, aux besoins de la demande. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut trouver un substitut. Donc, le substitut, c'est par exemple une centrale à gaz. C'est la position allemande. Hein. Le gaz, c'est en quelque sorte pour les Allemands, la centrale à gaz, c'est un petit peu l'énergie de transition en attendant de trouver la solution. Alors, quelle est la solution ? La solution, c'est le stockage intersaisonnier. Alors, ce stockage intersaisonnier, le stockage à très court terme, ce sont des batteries, mais c'est relativement coûteux et c'est quand même à un niveau relativement modeste. Le stockage intersaisonnier, ça passe par ce qu'on appelle le power to gas, c'est-à-dire en fait la transformation de l'électricité faite avec de l'éolien en gaz, et le gaz, en l'occurrence, c'est de l'hydrogène. Donc, avec cet hydrogène, ensuite, on peut refaire de l'électricité.
Alors, malgré tout, les énergies renouvelables ne représentent toujours qu'une partie minoritaire du bouquet énergétique de l'UE, tout confondu. C'est encore dominé par le pétrole, le gaz, le charbon, qui représente à peu près 70% au total. Malheureusement, la crise ukrainienne, la crise russe, va nous amener finalement à revoir tout ça ?
La réponse est en principe oui. Alors, on peut soit dire qu'il faut baisser la part des fossiles et accélérer la transition vers les énergies décarbonées, soit dire qu'il faut trouver des sources d'énergie ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, la préoccupation, ce n'est pas de se passer du gaz, c'est de se passer du gaz russe. Alors, c'est en effet, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un peu plus facile, pour les pays baltes, parce que les pays baltes, même s'ils dépendaient beaucoup de la Russie pour l'approvisionnement en pourcentage, les pays baltes, c'est les trois pays baltes ensemble, c'est 4 milliards de mètres cubes de gaz. La France, c'est 40 milliards de mètres cubes de gaz. L'Allemagne, c'est 90 milliards de mètres cubes de gaz. Donc, si vous devez trouver 4 milliards de mètres cubes, vous pouvez les trouver en Algérie, vous pouvez les trouver en Norvège, vous pouvez les trouver même en Australie. Par contre, si vous devez en trouver 90, alors pas 90, parce que l'Allemagne ne dépend qu'à 50% un peu plus de l'approvisionnement russe, c'est plus difficile de trouver 40 milliards d'un seul coup, j'irais dans les autres pays, même si les États-Unis ont dit qu'ils allaient faire un effort. Alors, je crois que cette crise va, d'un côté, montrer qu'il faut diversifier les approvisionnements. On était beaucoup trop dépendants à la fois pour le gaz, le pétrole et le charbon de la Russie. Donc, il faut diversifier les approvisionnements. Et ça peut inciter, eh bien, à accélérer, je dirais, l'abandon des énergies fossiles et donc accélérer la recherche de la décarbonation. À cela s'ajoute, et on l'a vu récemment, le fait que tout le monde a compris que la maîtrise de la demande, l'efficacité énergétique, c'était quand même la première mesure. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de consommer moins d'énergie. Ça ne remet pas en cause le bien-être social.
Alors, le domaine des transports, c'est dans l'UE, c'est ce domaine qui utilise le plus d'énergie fossile. Donc, du coup, est-ce qu'il va falloir, plutôt qu'essayer de diversifier les approvisionnements, est-ce qu'il ne faut pas repenser un petit peu tout son mode de vie, finalement ?
Ben évidemment, on peut développer les transports collectifs, ça c'est la meilleure solution. Éviter de prendre l'avion et préférer le train, ça je dirais qu'il y a un consensus. Le problème, c'est le véhicule particulier, le véhicule électrique ou le véhicule hybride. Enfin, le véhicule électrique, c'est l'avenir. Sauf qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, une barrière à l'entrée. C'est le coût du véhicule électrique. Il est relativement élevé. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se payer un véhicule électrique. D'autant que le marché de l'occasion du véhicule électrique n'existe pas encore. Donc, c'est une des grandes difficultés. C'est la raison pour laquelle les gens modestes aujourd'hui utilisent des véhicules à essence qui sont des véhicules thermiques anciens, qui polluent, qui ne sont pas efficaces. Vous ne pouvez pas leur expliquer que pour aller travailler, il faut qu'ils achètent un véhicule électrique d'une marque américaine très connue, mais qui coûte 60 000 euros. Ça, ce n'est pas possible.
Est-ce que, si on veut vous parler de véhicules électriques, donc production d'électricité, l'électricité, il n'y a pas 36 solutions pour la faire, la produire en masse. Le nucléaire, il y a un débat en ce moment dans l'Union européenne pour que le nucléaire soit considéré comme une énergie de transition verte, on va dire. Est-ce que c'est... Alors, c'est décarboné, c'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment une bonne solution ?
Ah ben moi, je considère que c'est pour l'instant incontournable dans l'état actuel des choses. Il faut voir que, par exemple, les dernières prévisions de RTE montrent qu'à l'horizon 2050, la part de l'électricité dans la consommation d'énergie en France, ce sera 55%. Aujourd'hui, c'est 25%. On va vers ce qu'on appelle une électrification des usages. C'est vrai dans tous les domaines, la mobilité, c'est vrai dans le chauffage, etc., parce qu'on va remplacer le chauffage au gaz qui maintenant va être interdit par du chauffage électrique. Bon, donc il faut fabriquer cette électricité. Donc dans la mesure du possible, il faut la fabriquer avec des énergies décarbonées. Là, vous avez les énergies décarbonées comme le nucléaire ou les renouvelables. Alors, en tenant compte de l'hydraulique, de la biomasse, le biogaz, par exemple, c'est une énergie décarbonée. Ou en tenant compte du solaire, de l'éolien. Alors ensuite, chacun choisit. Par exemple, les Allemands, eux, préfèrent de façon transitoire utiliser du gaz que de faire appel au nucléaire. Bon, c'est un choix politique parce que, et sociétal, c'est une volonté politique en Allemagne très forte. Les Français, eux, qui ont une tradition nucléaire, considèrent qu'il faut non seulement maintenir, mais accélérer pour certains, fortement accélérer pour d'autres. Hein. On le voit bien au niveau du débat parlementaire, au débat politique, que les choix sont un peu différents, en disant, à l'horizon 2050, un des scénarios qui aujourd'hui tient un peu la route, le scénario de RTE, du réseau de transport d'électricité, c'est 50% de nucléaire, 50% de renouvelable.
Alors, l'Union européenne a augmenté sa volonté d'augmenter la part d'énergie renouvelable, puisque le prochain objectif, c'est de porter à 40% hein, la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique, pour réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est possible d'y arriver en très peu de temps hein.
Oui, c'est relativement possible avec une volonté. Alors, il faut savoir que l'Union européenne, maintenant, donne encore une fois un objectif collectif. Ensuite, chacun, je dirais, fait ce qu'il veut. C'est un peu là la difficulté. C'est comment va-t-on obtenir collectivement une résultante qui sera la conséquence de choix individuels. Ce n'est pas évident. Chacun a une marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer à un pays de choisir telle énergie ou pas. Les Allemands veulent sortir du nucléaire, ils n'ont pas demandé la permission et on ne leur a pas interdit. Les Français veulent maintenir le nucléaire, ils ont le droit, la taxonomie d'ailleurs l'a reconnu. Donc les Autrichiens disent on voudrait qu'ils ne le fassent pas, les Allemands disent on voudrait qu'ils ne le fassent pas, mais je dirais chacun fait ce qu'il veut, il ne peut pas interdire aux autres de faire ce qu'il veut. Donc si vous voulez, n'oublions pas qu'en Europe, dans l'Union européenne, c'est une fédération d'États-nations. Et donc les politiques énergétiques, c'est stratégique, elles sont et elles restent, et elles resteront longtemps encore des politiques nationales.
Mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas que le secteur énergétique devienne une compétence exclusive de l'Union européenne ? Est-ce que ce serait tenable, ça ?
Dans l'état actuel des choses, c'est pas réaliste, parce que c'est beaucoup trop stratégique. Si vous voulez, ça fait partie quand même des domaines, disons, qui sont des domaines régaliens, et il n'y aura pas un consensus absolu. On pourrait même faire la même observation aux États-Unis, un État fédéral où, selon les États, vous avez des choix qui sont différents. Si vous regardez les États-Unis, les politiques des États en matière énergétique peuvent être très, très différentes. Vous avez des États charbonniers, vous avez des États très renouvelables. Bon, la Californie, ce n'est pas les États du Midwest.
Et donc, du coup, est-ce que nous, on regarde ça en tant que citoyen un peu de loin, mais comment le citoyen européen peut agir ? Est-ce qu'il faut que lui-même, à son niveau, développe ses mini-systèmes solaires, éoliens dans son jardin ? Comment on peut, nous, agir là-dessus ?
Si vous voulez, il faut prendre le problème par les deux bouts. C'est-à-dire que vous avez à la fois des individus qui, par exemple, peuvent développer, en effet, des sources renouvelables. Mais en même temps, on a besoin d'une vision nationale, ne serait-ce que pour développer les réseaux. N'oubliez pas que le début de la construction européenne s'est fait sur l'énergie. C'est la CECA, c'est l'Euratom aussi, on l'oublie souvent. Le traité de l'Euratom est toujours en vigueur. Les Allemands ne l'ont même pas dénoncé, ce qui veut bien dire que théoriquement, ils doivent respecter le traité de l'Euratom. Bon. Et donc, il faut développer les réseaux. L'Europe s'est faite autour des réseaux, si vous voulez. On a mis en commun ces réseaux. Aujourd'hui, on cherche un marché unique de l'énergie. Alors, si vous voulez, la grande difficulté, c'est d'avoir un marché unique de 27 pays, avec, en aval, des prix qui convergent, pour que tout le monde paye à peu près le même prix, mais avec en amont des choix nationaux qui sont différents. Et donc, vous avez un problème, je dirais, un peu méthodologique, c'est comment, globalement, arriver à un résultat, sachant qu'au départ, les choix sont un peu différents. Alors, on progresse lentement. Je crois, si vous voulez, que l'énergie, ça fait partie de ces quelques secteurs qui font que les prérogatives nationales sont encore fortes.
En tant que spécialiste de l'énergie, est-ce que vous êtes optimiste, Jacques Percebois ?
Moi, je suis optimiste par nature, parce que je pense que, si vous voulez, le grand atout, quand on regarde l'histoire de l'énergie, ce qui a permis, je dirais, de trouver les solutions, c'est le progrès technique. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut être confiant dans le progrès technique. Il y a du progrès dans tous les domaines aujourd'hui, dans toutes les énergies, au niveau de la production, au niveau du transport, de la distribution, d'utilisation. Et donc, le progrès technique permettra peut-être de trouver des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Quand vous regardez l'histoire de l'énergie, vous voyez qu'à certaines époques, on a dit « on va manquer d'énergie, qu'est-ce qui va se passer ?» Le progrès technique a fait qu'on a trouvé une solution à laquelle on n'avait pas pensé au départ. Donc, il faut rester optimiste.
Même dans les prochains mois qui arrivent, alors qu'on sait que ça va être compliqué de s'approvisionner en énergie ?
Dans les prochains mois, c'est un peu différent. Je crois que dans les prochains mois, il faut que les gens aient conscience qu'il faut faire le maximum d'efficacité énergétique, réduire autant que faire la consommation. Et il faut s'attendre à ce que les prix de l'énergie augmentent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tendance, c'est une augmentation des prix. Mais si vous voulez, il faut être raisonnable. Si on veut faire la transition énergétique, elle ne va pas se faire avec des énergies bon marché. Nécessairement, le prix de l'énergie va monter. Donc la transition énergétique fait qu'il faut augmenter le prix parce qu'il faut tenir compte du coût de l'épuisement de certaines énergies, du coût, je dirais, de construction des énergies plus performantes. Et donc tout ça, ça va inciter à faire de l'efficacité. Le maître mot, c'est quand même « faites de l'efficacité énergétique ». Il y a un potentiel énorme dans tous les domaines.
Très bien, ce sera la conclusion. Merci beaucoup Jacques Percebois de nous avoir expliqué les enjeux de ces politiques énergétiques européennes. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine émission très rapidement sur Radio Divergence.
Mesdames et messieurs les députés.
L'Union européenne est d'abord un espace où les peuples ont décidé de vivre en paix.
Autour de la table, les dirigeants des 27 réunis aujourd'hui en sommet. Plusieurs dossiers sont sur la table au moment où je vous parle.
Nous avons collectivement à nous donner les moyens de faire de notre Europe une puissance d'équilibre.
Tout ce qu'il a dit, il l'avait déjà dit par le passé. Il n'y a rien de fondamentalement, je dirais, nouveau.
Et ma jeunesse fut celle de l'évidence européenne.
Cette prison qui est devenue l'Union européenne.
Et je compte sur le travail étroit, harmonieux, avec le Parlement européen.
Plus j'y parle, moins il en dit. J'y parle, moins il en dit. J'y parle, moins il en dit.